Les entretiens d'Accent 4.
Vincent Figuri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien, diplômé du Conservatoire de Grenoble, agrégé en musicologie. Vous avez également suivi le cours Florent et vous avez été aussi un homme de radio puisque vous avez été producteur à France Musique. Et vous venez de fonder un nouveau label discographique Salamandre. Le premier disque vient de paraître et il est consacré à une partition peu connue de Prokofiev, Le bûcher d'hiver, un conte composé à la suite d'une commande en 1949 et qui est destiné aux enfants. Bien, ce monde de l'enfance, Prokofiev le connaît assez bien, on lui doit en particulier des chansons enfantines, les 12 pièces enfantines et le célèbre Pierre et le loup. Avec Le bûcher d'hiver, Prokofiev ne cherche absolument pas à récidiver ce qu'il avait fait avec Pierre et le loup.
Non, pas exactement. C'est-à-dire que c'est un conte qui s'adresse à des enfants un peu plus mûrs, je pense, que Pierre et le loup. Selon moi, Pierre et le loup, c'est plutôt l'enfance avant les 10 ans, et Le bûcher d'hiver, c'est l'enfance, en gros, je pense, entre 8 et 14 ans, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui apprécient Le bûcher d'hiver, peut-être plus facilement encore que Pierre et le loup, pour lequel l'histoire est vraiment taillée sur l'imaginaire des très jeunes enfants. Ici, dans Le bûcher d'hiver, l'histoire, elle est moins présente finalement que dans Pierre et le loup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement de narration, c'est plutôt l'illustration de musicale, de tableautin écrit par Samuel Marchak. D'ailleurs, comme je l'explique dans la jaquette, il y a deux versions de ce texte. Il y a la version officielle qui a été créée donc en 1950. C'est une version qui abonde dans l'idéologie staliniste et qui fait beaucoup d'allusions au Komsomol et au Kolkhoz, d'une façon assez lourde d'ailleurs. Et je pense qu'après la mort de Staline en 1953, d'ailleurs je rappelle à l'occasion que Staline est mort le même jour que Prokofiev, ou l'inverse si vous préférez, après donc la mort des deux protagonistes principaux, Staline étant en toile de fond en quelque sorte dans cette œuvre, eh bien, Marchak a sans doute voulu réviser son œuvre. Il y a une œuvre complète qui est parue à la fin des années 50, je crois. Et donc, dans cette révision, eh bien, il y a pas mal de passages, dont le passage central qui fait allusion au Kolkhoz et au Komsomol, que Marchak a rayé. Donc, je pense qu'il avait tout à fait conscience des obligations qui lui étaient faites d'écrire et de faire l'apologie du régime. Et dans sa deuxième version, il a voulu enlever tout ça pour ne garder que l'essentiel de la poésie. C'est d'ailleurs c'est ce texte qui, je pense, est à l'origine de l'insuccès, en quelque sorte, de l'œuvre, puisque l'œuvre n'a jamais été jouée en anglais avec le texte original. Ça paraît assez surprenant. Il y a une version française qui date de 1957, donc c'est la version originale qui vaut parce que c'est un témoignage de la création, en quelque sorte, avec le chef de la création. C'est une version qui a été enregistrée en 33 tours, un 33 tours qu'on trouve difficilement aujourd'hui, encore que je pense qu'on le trouve de temps en temps sur eBay. Toujours est-il que c'est une version totalement désuète, et surtout ce qui est étonnant, c'est que dans cette première version de 1957, en fait, la musique n'est pas du tout mise en valeur. C'est-à-dire que pour laisser la place au récitant et à la narration, on coupe le texte absolument n'importe où. On coupe la musique, pardon, absolument n'importe où. Et donc, Prokofiev est complètement mutilé. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de couper la musique en plein milieu d'une phrase qui chante ou juste avant une cadence parfaite. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait quand même revenir sur cette œuvre avec le texte original et proposer quelque chose de nouveau.
Vous avez essayé d'actualiser le texte ?
Non. Non. Je n'avais pas du tout l'intention d'actualiser le texte. J'ai voulu rester le plus fidèle possible au texte original, qui, pour moi, a beaucoup de qualités. On a beaucoup critiqué Marchak, c'est-à-dire que quand on lit, évidemment, cette prose ridicule que j'ai évoquée, la prose de la création, on se dit, mon Dieu, mais quel écrivain pitoyable. C'est pas du tout le cas. Marchak a écrit des choses très intéressantes pour les enfants. Et dans la deuxième version, eh bien, il n'y a gardé que la poésie de ce bûcher d'hiver, et je trouve ça tout à fait honnête comme écriture. Et j'ai voulu me rapprocher le plus possible, conserver cette poésie originale. Donc je n'ai pas du tout voulu moderniser le texte, j'ai juste rajouté un paragraphe de ma main, puisqu'il y avait un paragraphe qui manquait, pour pour lequel Prokofiev avait écrit une pièce et qu'il n'y avait pas de texte en face.
En enregistrant cette partie parlée, quel rapport avez-vous voulu établir entre la musique et le texte ?
J'ai voulu établir une fusion entre l'un et l'autre. Parce que, en général, dans les contes musicaux, enfin souvent, c'est pas systématique. Ce n'est pas le cas dans Pierre et le Loup, par exemple, puisque dans Pierre et le Loup, Prokofiev a écrit le texte directement sur sa partition, à des endroits très précis qui ne sont pas toujours respectés d'ailleurs par les récitants. Et dans Le Bûcher d'hiver, eh bien, le texte n'est pas, il n'y a pas d'indication. La partition originale est très imprécise à ce propos. Elle est tout à fait floue du reste. Voilà, on nous donne d'un côté le texte et de l'autre côté la partition. Donc, je présume qu'il y a de grandes chances pour que le texte ait été créé en étant dit entre les mouvements. Ça n'est pas une certitude totale. Et pour ma part, j'ai toujours apprécié, je m'ennuie beaucoup quand j'entends un texte qui dit quelque chose qui doit être illustré dans la musique quelques minutes après. Je pense que pour les enfants, c'est encore plus difficile parce que les enfants aiment entendre immédiatement l'évocation narrative qu'on vient de leur soumettre. Ils aiment entendre l'écho de cette évocation immédiatement dans la musique, presque en prise directe en quelque sorte. En tout cas, étant souvent récitant, je m'ennuie assez vite quand je dois dire un texte entre les mouvements musicaux. J'aime essayer de faire des liens avec la musique. Je pense que quand on joue en public, c'est très important, et au disque, ça le reste aussi. Donc j'ai placé le texte sur la musique pas tout le long, parce que ça n'était pas possible de le placer entier à 100% sur la musique. Il ne faut pas non plus se mettre à parler en même temps que la musique à tort et à travers. Donc, je dirais qu'il y a en gros 50% du texte avant la musique et 50% sur la musique, à des endroits clés, évidemment, quand on doit entendre un oiseau qui chante ou quand le feu se met à voltiger et se mêle à la neige, eh bien, tout, on l'entend dans la musique d'une façon assez claire. Donc, je me suis arrangé pour tailler les phrases sur la bande-son et sur la partition, de façon à ce qu'elles interviennent à des moments où la musique laisse quelques secondes de respiration, c'est-à-dire avant une phrase mélodique, ou avant une modulation, ou quand il y a quelques mesures de jonction entre un élément et un autre.
Précisément, parlons un peu de la musique. On sait que Shostakovich, qui est un peu le contemporain de Prokofiev, avait énormément de mal à composer lorsqu'il avait une commande. En revanche, Prokofiev est beaucoup plus à l'aise et il trouve immédiatement, on peut s'en rendre compte, dès les premières mesures de ce conte, il trouve le ton juste.
Oui, j'ai presque envie de dire que c'est le propre des génies peut-être de n'être pas entravé par la commande. Mozart n'était pas entravé par les commandes, Tchaïkovski non plus, et Prokofiev non plus.
Vous voulez dire que Shostakovich n'est pas un génie ?
Il n'a pas le même génie que Prokofiev. Moi, je préfère Prokofiev de loin. J'aime beaucoup Shostakovich, c'est un compositeur très... très fort, très imprégné évidemment de ce XXe siècle soviétique qu'il a connu de fond en comble, ce qui n'est pas exactement le cas de Prokofiev, puisque Prokofiev a fait la première partie de sa carrière à l'étranger, mais ils ne sont pas tout à fait contemporains à Prokofiev.
Mmh, bien sûr.
Une vingtaine d'années, moins que Shostakovich, je crois, quelque chose comme ça. Je préfère Prokofiev, incontestablement. Pour moi, c'est un compositeur de premier plan où tout est généreux. C'est-à-dire qu'il y a abondance d'idées, d'inspiration, de lyrisme, une manipulation de l'écriture tout à fait virtuose, c'est-à-dire qu'il fait absolument ce qu'il veut de sa plume, sous des airs d'ailleurs d'une certaine facilité, ou d'une... Quand on ouvre une partition, on se dit que ça doit sonner finalement assez quelconque, et quand on met les mains sur le piano, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a un raffinement et des subtilités chez Prokofiev qu'on ne trouve pas, à mon sens, systématiquement chez Shostakovich.
Alors que Prokofiev, sa personnalité contraste avec sa musique. C'était quelqu'un d'extrêmement dur à l'égard de ses contemporains.
Absolument. Dur à l'égard de ses contemporains, comme aussi beaucoup de génies. Et puis, je pense, assez insupportable et difficile dans la vie avec ses proches. Il a eu des rapports un peu assez particulier avec ces deux femmes, je crois qu'il en a eu deux, et il y a une histoire assez dramatique avec la première.
Absolument.
Je pense que ça n'était pas forcément un personnage passionnant, certainement contrairement à Shostakovich du reste, qui était beaucoup plus, je pense, tourné vers le monde dans lequel il vivait. Prokofiev était tourné vers, était assez égocentrique, je pense, et était tourné vers son monde intérieur. Mmh. Il ne s'intéressait pas particulièrement, je crois, à ce qui se passait autour de lui. D'ailleurs, il a vécu les événements à partir de son retour en URSS, un peu comme une marionnette, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment compris l'enjeu que cela représentait pour lui de revenir au pays. Et quand tout lui est tombé sur la tête, ma foi, il a peut-être réalisé qu'il n'avait peut-être pas fait le bon choix. Enfin, il me semble, je crois, de ce que je perçois du personnage, que c'était un créateur pur, c'est-à-dire qu'il ne concevait pas une journée sans la création, et que c'était un peu, il avait sans doute des réactions un peu épidermiques de l'enfant à qui on retire son jouet si on l'empêchait de composer. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il était très malade, le médecin lui avait retiré l'autorisation de composer, et ça l'avait rendu impossible au quotidien, dans les deux dernières années de sa vie. Parce que quand il écrit Le Bûcher d'hiver, il n'a plus que 2 ans à vivre, en gros. Hein.
Oui.
Le Bûcher d'hiver est créé en décembre 1950, et lui, il meurt en mars 1953.
On revient sur cette musique de ce conte.
Oui.
Je disais tout à l'heure le ton juste.
Oui, c'est une... Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais ça m'est un peu égal, si vous voulez. Moi, ce que je souhaite défendre avant tout, c'est la musique. Je pense que c'est justement une musique qui peut se passer de la narration. Elle se suffit à elle-même. Simplement, la narration, selon moi, éclaire l'œuvre. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai proposé une narration, le travail que j'ai proposé dans le premier disque de Salamandre. Mais oui, de Prokofiev trouve le ton juste pour tous les tableaux qui s'enchaînent dans ce petit conte extrêmement simple, que ce soit le train, qui selon moi est un des plus beaux trains de l'histoire de la musique. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, il y a par Pacifique 231 d'Honegger, je n'en connais pas beaucoup d'autres. C'est un train rutilant de couleurs et de rythmique qu'on entend dès le départ de ce conte et qu'on entend aussi à la fin, puisque le voyage se fait en train, donc les enfants partent de Moscou en train et retournent après leur petit séjour à la neige à Moscou par le même moyen de transport. Et puis quand Prokofiev évoque le paysage de neige qui s'ensuit à l'arrivée des enfants à la campagne, je trouve ça absolument merveilleux. On a vraiment l'impression d'avoir un tableau russe sous les yeux, avec les sapins qui croulent sous la neige, le soleil qui irradie toute cette campagne noyée sous la neige. Quant au feu, c'est du même acabit, c'est-à-dire que le soleil se couche, les enfants font un feu, et les deux feux se mêlent, celui du soleil et celui du feu de camp. Et on sent dans toute l'orchestration le célestat, les percussions, le triangle qui font scintiller ces brindilles, qui se mêlent à la neige. Il y a un étourdissement sonore absolument sans précédent dans cette musique. Je ne comprends pas d'ailleurs que les biographes soient si sévères avec cette œuvre. En fait, si, je comprends et j'ai mon idée là-dessus, c'est que tout simplement, les rares biographes qui ont écouté l'œuvre ont entendu ce qui était à leur disposition, c'est-à-dire la version de 1957 qui massacre la musique,
oui,
avec un texte qui est indéfendable.
Pierre Dorigné, l'auteur d'une biographie parue chez Fayard, est particulièrement, j'allais dire, saignant, entre guillemets, sur cette partition. Son jugement est extrêmement négatif, et c'est probablement, vous avez raison de le souligner, c'est davantage le texte. Ce disque, on va arriver au terme de l'entretien, Vincent Figuri, ce disque présente 3 versions, la version, le conte en français, le conte en anglais, et puis une sorte de suite instrumentale, en définitive.
Oui, tout simplement parce que je me disais qu'en faisant la version uniquement en français, eh bien, il y avait 20 minutes de musique et ça ne suffisait pas à faire un CD complet. Ça cataloguait en plus le disque dans le rayon jeunesse, ce qui n'était pas selon moi la meilleure des idées pour une première de Prokofiev. Donc en plus je voulais toucher le public anglophone. Donc j'ai fait faire une traduction de ce texte en anglais, pour le dire en anglais, et je voulais aussi, pour faire un disque complet, donner la possibilité d'entendre la musique sans le récitant, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine façon, elle peut se suffire à elle-même. Et puis j'ai pensé aussi à faire un geste pédagogique, parce que je pense que c'est un disque qui est éminemment utilisable par les professeurs de musique en collège, à l'éducation nationale. Et donc la possibilité d'utiliser la version sans le récitant est importante pour faire un travail pédagogique. Et en plus, si les enfants y prennent goût, eh bien ils peuvent s'en servir comme karaoké. Voilà. Je voulais être le plus complet possible avec ce que je proposais au public.
Très bien. Prochaine étape, c'est de présenter ce conte en public.
Ah mais figurez-vous qu'alors ça a été fait dans ce sens-là, parce que j'ai fait la création en l'an 2000 à Paris. Et puis je l'ai repris en 2003 avec l'orchestre Sinfonia Medica, qui est un orchestre que Nathalie Borgel, chef d'orchestre grenobloise, avait monté dans les débuts des années 2000. Donc en fait, je l'ai d'abord joué sur scène avant de l'enregistrer. Et bien, évidemment, j'espère le reprendre. J'espère que des chefs d'orchestre entendront cette œuvre merveilleuse qui est absolument idéale pour non seulement pour la période de Noël, mais pour faire des concerts jeune public. Donc moi, je serais ravi de le jouer dans les pays francophones et anglophones à travers le monde. Ça me ferait très plaisir.
Bien, merci beaucoup, Vincent Figuri.
Merci à vous.
Il gèle dur ce matin et la gare de Moscou scintille dans le froid lumineux. Notre petit groupe passe la porte et voilà le chemin de fer. Nous sortons sur le quai où nous attend un train tout neuf et tout brillant. La neige crisse sous nos pas. Nous grimpons dans notre wagon. Le chef de gare donne un coup de sifflet. Les tampons claquent comme des cymbales. Le train s'ébranle et nous partons. Au revoir, Moscou. La locomotive transpire sous la chaleur et envoie des jets de vapeur droit dans le ciel. Le feu vert et le feu rouge s'allument et à tout moment, la gare dialogue avec le train et le train avec la gare. Les cornes chantent à l'aiguillage. Les skis se dressent bien graissés dans les compartiments. Chacun veut se mettre près des fenêtres pour voir les maisons qui défilent comme sur des roulettes.